BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Au sommaire de ce jeudi 23 mai, la portabilité des prêts bancaires, est-ce une bonne idée pour relancer l'immobilier résidentiel? L'idée est de pouvoir transférer un crédit existant sur l'achat d'un nouvel appartement ou d'une maison sans avoir à contracter un prêt à de nouvelles conditions. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On en parlera dans un petit quart d'heure avec nos invités du Talk. Emmanuel Macron veut faire de la France l'un des leaders mondiaux en matière d'intelligence artificielle, mais sommes-nous suffisamment armés en matière de financement? Dans la Deep Tech, les investissements sont en baisse sur ce début d'année par rapport à l'an dernier. On verra pourquoi tout à l'heure à 10h45. On vous expliquera le fonctionnement des applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus grâce à ce qu'on appelle la gamification. Quel est le principe et surtout comment s'assurer que la gamification ne devienne pas une distraction par rapport à l'objectif initial d'investissement? Rendez-vous donc à 11h30 tout à l'heure pour en parler. Et puis, investir dans un sac à main de luxe, c'est aussi une forme de placement. Comment se lancer? Comment faire le bon choix? Quelles sont les erreurs à éviter? C'est Léa Lejeune qui sera avec nous à 11h45 pour nous expliquer le principe et les pièges à éviter. Mais tout de suite, les marchés financiers. Avec Antoine Larigaudry, que l'on retrouve au siège d'Euronext. Bonjour Antoine, le marché parisien repart en territoire positif.
Oui, mais alors vraiment pour le principe, hein, Stéphane, plus 0,26% pour un CAC 40 qui reconquiert les 8100 points, 8114, hausse légèrement supérieure pour les valeurs techno avec l'Euronext Tech Leaders qui gagne 0,3%, plus 0,2% pour le DAX à Francfort, plus 0,49% pour l'Eurostock 50. On sent quand même que tout cela est bien laborieux. On est pris entre deux feux sur le CAC 40 ainsi que sur l'ensemble des places européennes. Alors c'est vrai que les résultats absolument stratosphériques d'NVIDIA rassurent l'ensemble du marché en matière de perspectives dans le domaine de l'intelligence artificielle autant que dans la high-tech de manière générale. Oui, mais voilà, il y a aussi les propos de la Fed et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire qui plombent un peu l'atmosphère avec la confirmation que le ton est beaucoup plus offensif que ces dernières semaines concernant l'inflation. Certains gouverneurs trouvant que vraiment l'inflation persiste de manière inquiétante et certains d'entre eux étant même favorables à de nouvelles restrictions en matière de politique monétaire. Donc du coup, ça fait se tendre les taux d'intérêt qui restent vraiment calés sur 4,4% pour la dette américaine. Mais les taux européens ont tendance à se tendre un petit peu, notamment après les premières publications de PMI, notamment en Allemagne. Le résultat, c'est qu'on est en hausse, mais vraiment pour le principe. À noter les principales progressions du moment. EuroAPI qui se redresse, plus 3,2% à 3,35€. Mais le titre était en très forte hausse à l'ouverture après l'annonce d'un contrat important de fourniture à un grand laboratoire de produits vétérinaires. On a également la Coface qui gagne 2,5% à 14,15€. Plus forte hausse du CAC 40, c'est Stellantis qui se redresse bien, plus 1,5% à 20,70€. Schneider Electric plus 1,48 à 236,50€. La parole aux valeurs cycliques et industrielles ce matin. Parmi les plus fortes hausses, à noter le secteur bancaire aussi qui se porte bien avec Société Générale qui gagne 0,97% à 27,52€. À la baisse, on retrouve Eurofin Scientifique moins 1,7, 58,86. Dassault System moins 1,36 à 39,30. Edenred moins 1,18, 46,07. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Forvia, qui perd 1,7% à 14,74€. Puis à noter Soitec, on aurait pu croire que le groupe aurait profité de l'appel d'air d'NVIDIA, mais pas du tout. Il perd 1,57% à 112,60€ après parution de ses propres chiffres, avec une tendance encore toujours compliquée dans le domaine des semi-conducteurs. Plus 0,26 pour le CAC, 8113, une hausse vraiment pour le principe. L'euro 1,0835, Stéphane.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry, on se retrouve dans une heure pour un nouveau point complet en direct du siège d'Euronext. Il est 10h07, le journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Avec Charlotte Tamer, experte en finances personnelles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En cette période de déclaration d'impôt, on va parler d'une stratégie qui rend le CTO, le compte-titres ordinaire, fiscalement attractif et compétitif. En anglais, c'est le Tax Loss Harvesting. C'est quoi? C'est une stratégie de vente à perte pour des raisons fiscales?
Oui, tout à fait. En fait, le Tax Loss Harvesting, il est beaucoup pratiqué aux États-Unis parce qu'il y a des enveloppes, il y a beaucoup moins d'enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie. Et en fait, la stratégie, elle est assez simple. Elle consiste à entériner ces moins-values sur une année fiscale pour pouvoir les reporter sur les plus-values à venir pendant 10 ans. Parce qu'on le sait, les moins-values mobilières qui sont déclarées à temps et qui sont actives sont reportables sur les plus-values actives à venir sur les 10 prochaines années. Et donc, on peut s'auto-créer sa franchise d'impôt sur le compte-titres ordinaire, ce qui le rend d'autant plus attractif.
La gestion sous mandat, on va en parler également aujourd'hui, elle permet aux investisseurs de ne pas se soucier du suivi de leur assurance vie, de leur PER. Mais est-ce que c'est vraiment la garantie d'un meilleur rendement ? Les Échos parlaient cette semaine du grand bluff de la gestion sous mandat.
Effectivement, il y a un article un peu choc qui est sorti.
Un peu provoque
et un peu généraliste, on peut le dire, dans Les Échos sur la gestion sous mandat. Au final, la gestion sous mandat, c'est d'abord vu comme un outil d'aide à la décision. C'est ça qui doit ressortir aujourd'hui. L'investissement, la capitalisation boursière est devenue un enjeu sociétal qui doit concerner tout à chacun. Alors pour des projets d'avenir, qu'importe le projet, mais qui concerne de plus en plus de monde. On peut investir aujourd'hui dès 1 euro. Et je pense que le robot advisor, la gestion sous mandat, reste encore aujourd'hui le meilleur outil d'aide à la décision pour permettre aux gens les moins rassurés, les moins connaisseurs, de mettre un pied dans l'eau, de mettre un pied à l'étrier, comme on dit. Après, il faut faire attention, avoir quelques principes de précaution, mais je pense qu'on en reparlera juste après.
Oui, on en parlera tout à l'heure dans le débat avec Stéphane Van Nuffel, mais derrière cet article, derrière ce sujet, il y a aussi l'éternel débat entre gestion active, gestion passive.
Alors, il y a ce débat, non parce que, enfin, je ne suis pas tout à fait alignée avec vous, parce que je pense qu'en gestion active, on peut aussi avoir besoin de la gestion sous mandat. Choisir un ETF n'est pas quelque chose de si simple en soi, et puis on le voit dans la gestion passive, certains robots advisors proposent une gestion globalement passive avec un petit peu de tactique sur le côté, ce qu'on appelle les fonds diversifiés en ETF. Ouais. Donc c'est pas 100% de la gestion passive, mais l'ETF n'empêche pas le mandat de gestion, bien au contraire.
On va parler de Taylor Swift, la chanteuse américaine. Elle ne remet pas en question la règle de Taylor, qui est une règle de politique monétaire, mais elle marque en revanche l'irruption du monde du spectacle dans la sphère des banques centrales.
Effectivement, il y a une tournée mondiale, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, c'était un peu pour le fun act de ce matin. Et au final, Taylor Swift a créé un raz-de-marée partout où elle est passée aux États-Unis. Et au final, on se rend compte qu'elle a eu, d'un point de vue local, hein, c'est pour ça qu'elle ne remet pas en cause non plus toute l'économie américaine, mais elle a eu un impact local sur les villes où elle est passée. Et d'ailleurs, c'est à Philadelphia où on se rend compte que le taux d'occupation des hôtels, au niveau de la restauration, les chiffres, on a atteint des chiffres records qui n'avaient pas été atteints depuis le post-pandémie. Donc elle arrive bientôt en Europe, bientôt en France aussi. Est-ce qu'elle va surpasser ce qui se passe au niveau des JO ? Mais en tout cas, elle a un réel impact qui a fait dire, en fait, au niveau des États-Unis, que la consommation, en fait, se portait plutôt bien, malgré des taux directeurs qui restent plutôt élevés.
Ouais, certains nous parlent d'une chanteuse systémique, hein, qui est capable de faire bouger
l'économie. Oui, on parle aussi de Swift Economy.
Voilà. Merci Charlotte, vous restez avec nous dans un instant. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement, va nous rejoindre pour le talk de Tout pour votre argent. D'abord, le marché, Antoine nous le disait, la séance en cours à la Bourse de Paris, on progresse, mais vraiment sans grande conviction. On va justement se pencher sur cette séance avec Mathieu Cérone.
Tout pour investir, le match des traders.
Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous, trader, fondateur de Galileo Trading. D'abord un mot sur cette séance, cette tentative de rebond du marché parisien. Antoine nous le disait, c'est vraiment sans grande conviction. Hein.
Oui, tout à fait. Nous avons des marchés qui sont extrêmement calmes depuis plusieurs jours, qui sont à la recherche d'un catalyseur pour bouger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Nvidia, ils en ont trouvé un intéressant, puisque la troisième capitalisation américaine a fait mieux que prévu au premier trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Elle est attendue actuellement en hausse de 7% à 1017 dollars. Mais pour autant, en Europe, eh bien, les marchés piétinent toujours autant. On se maintient assez nettement en dessous des plus hauts récents. On est à environ 1% des plus hauts récents. Et pendant ce temps-là, les marchés américains, eux, sont au-dessus. Hein. Le SP500 et surtout le Nasdaq ont dépassé leur plus haut précédent. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, les tendances de fond, bien évidemment, il n'y a pas de changement. On reste haussier hein, sur les indices, le CAC, le DAX. On reste toujours éloigné des niveaux de remise en question. Moi, depuis plusieurs mois maintenant, sur le CAC, je surveille la zone des 7800 points, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, à optique moyen-long terme, nous sommes du bon côté. En dessous, nous aurions une dégradation. Pour l'instant, à quasiment 8100 points, on est éloigné donc de ces niveaux-là. Donc, mais à court terme, on a tout de même un biais qui tend vers la neutralité. Vous voyez, c'est pour ça que je travaille les deux sens, justement, pour jouer cette phase, voilà, d'hésitation avec pas grand chose dans le pipe. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est un peu, on va dire, inquiétant, entre guillemets, pour des acteurs, on va dire, dynamiques à court terme, comme je le suis. On s'attend pas à grand-chose en termes de volatilité. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, la volatilité implicite. C'est très intéressant de regarder de ce côté-là. Puisque vous prenez le VIX aux États-Unis, on arrive sur des plus bas historiques. Il est actuellement autour de 11,5. Les plus bas historiques se situent autour des 10. Donc, on se rapproche de ces niveaux-là. Donc, les investisseurs ne s'attendent à pas grand-chose, il n'y a pas énormément de danger. On se demande bien le carburant, ce qui pourrait provoquer une poursuite des marchés, mais en même temps, il n'y a pas non plus de faiblesse. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut avoir une poursuite de cette phase d'hésitation-là, de latéralisation. C'est pour ça qu'à court terme, eh bien, j'exploite un biais neutre, je joue les deux sens. Sur le CAC, eh bien, je travaille aussi bien à l'achat qu'à la vente. Là, pour ce début de journée, j'essaye d'acheter à partir de 8065-70. Donc là, je vous parle du futur échéance juin, 8065-70, jusqu'à éventuellement 8050, qui est les plus bas d'hier après séance. Et à la vente, bah, plutôt vers 8135, avec un niveau intermédiaire à 8118. Mais vous voyez, je privilégiais pas de directionnel fort. Sur le fond, oui, la tendance est haussière, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais à court terme, ben, je pense qu'on peut alterner phase de hausse, phase de baisse. Il y a quelques semaines, ces mouvements-là s'enchaînaient avec beaucoup de violence et une forte volatilité au gré des déclarations des banquiers centraux, au gré des publications d'entreprises. Maintenant, on commence à y voir un petit peu plus clair. Les publications d'entreprises sont quasi terminées. On a eu la plus grosse hier. Et puis, au niveau des déclarations des banquiers centraux, alors oui, il y en a encore eu hier soir, mais on y voit un petit peu plus clair en ce qui concerne l'évolution des taux à venir. Donc, je crains que cette phase-là se poursuive. Sur les actions, il y a des petites choses aussi à signaler. Vous voyez, hier, on avait, même depuis quelques temps, on a un petit warning qui a été envoyé par les valeurs du luxe. Alors, faut toujours faire très attention à ces valeurs-là, parce que quand on analyse ces valeurs-là, parce que par le passé, eh bien, elles nous ont montré une belle capacité à rebondir, mais on a un petit warning. On voit que ça freine quand même sévère au niveau de l'activité. Vous avez Hermès et LVMH qui ont cassé hier des plus bas sur plusieurs mois. En revanche, quand on regarde les mid et small, et j'en parle sur votre antenne depuis pas mal de temps, on a toujours des situations intéressantes avec des démarrages, avec des relais. Et d'ailleurs, il suffit de regarder l'indice mid et small et surtout l'indice CAC small qui surperforme assez nettement l'indice CAC 40. Donc, vous voyez, il faut plutôt peut-être aller chercher dans cette direction-là en ce moment pour aller chercher de la performance. C'est vrai que sur les grosses capis, hormis quelques démarrages, comme par exemple hier Dassault Systèmes avec une configuration graphique assez intéressante de retournement, sur les autres, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volatilité. En revanche, sur les petites et moyennes capitalisations, il y a vraiment des situations intéressantes avec des vrais relais, des vrais mouvements. Ça fait on va dire un bon mois que ça dure, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une telle période.
Merci beaucoup Mathieu Céron d'avoir été en ligne avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. On reparlera des marchés tout à l'heure à 11h avec Antoine Larigaudry en direct d'Euronext. Le talk de Tout pour votre argent à suivre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Avec toujours en plateau Charlotte Tamer, business directrice du business développement chez Shares. Désolé, je me suis trompé de titre tout à l'heure. Et Stéphane Van Uffel, cofondateur de Net Investissement. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
On va parler de la portabilité des prêts bancaires. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour relancer l'immobilier résidentiel? En tout cas, c'est une proposition du député Damien Adam. Alors, l'idée, c'est de pouvoir transférer un crédit immobilier existant sur l'achat d'un nouveau bien. L'avantage pour l'acheteur, ce serait de conserver les anciennes conditions.
Alors, évidemment.
Par exemple, un taux à 1% au lieu de 3,5-4% actuellement. Mais c'est vraiment une bonne idée, notamment pour les banques ?
Alors, ça dépend d'où on se place. D'abord, il faut savoir que ça existe déjà. Donc, nous, on a toujours expliqué à nos clients d'aller regarder dans les petites conditions générales ou particulières de leurs offres de prêt, parce que figurez-vous que certaines banques le pratiquaient déjà. Attention, c'est compliqué, parce que je ne vais pas faire un cours d'économie, mais si la banque vous a prêté il y a 5 ans à un certain taux fixe, eh bien évidemment, elle doit se refinancer régulièrement parce qu'elle n'a pas, elle, emprunté l'argent à la banque centrale pour la même durée que vous. Donc les banquiers, entre 1,20 et 3,97, ce qui est l'écart à peu près sur 20 ans, sur 24 mois, c'est la banque qui devrait porter cette différence. Donc ça existe déjà. En général, c'est plutôt pour les bons clients. Mais on a tout à fait compris.
Le plus tôt, c'est pour les bons clients.
C'est, alors, quand je dis bons clients, c'est pas forcément les plus riches ou les plus larges. Non, d'accord. C'est pour les fidèles clients, d'accord, les vieux clients qui ont, bah, tout le package bancaire, quelques cartes bleues, un chéquier, des petits plus.
Liquidités.
Qui créent un chiffre d'affaires pour la banque, c'est normal.
Ouais.
Il y a donc un risque pour la banque qui donc freine des deux pieds, hein. La Fédération Française des Banques a freiné des deux pieds. C'est une piste quand même pour relancer l'immobilier, parce que ça permettrait finalement de refluidifier des transactions. Donc ça, évidemment, de l'autre côté, la Fédération de l'immobilier, elle dit c'est super. Le grand gagnant, bah, vous l'avez compris, ce serait finalement le particulier qui a un prêt pas très vieux, c'est-à-dire qui a encore des intérêts à payer et qui n'est pas en bout d'amortissement, et qui aurait entre-temps aussi un peu d'épargne lui permettant de combler avec son ancien prêt plus une épargne cumulée, l'acquisition d'un nouveau bien. Parce que forcément, en général, quand on a amorti, on n'a pas forcément les moyens d'acheter une nouvelle maison avec l'ancien prêt. Mmh. Dans le meilleur des mondes, ça fait partie de la demi-douzaine de petites choses qui seraient bien de mettre en place au cas par cas pour refluidifier finalement les transactions.
Mais potentiellement, ça concernerait beaucoup de monde.
Bah, on n'a pas vraiment les chiffres, parce que je vous dis aussi, ça dépend aussi de la durée de votre prêt.
Ouais.
C'est-à-dire, en gros, s'il vous reste que 2-3 ans sur un prêt de 20 ans, c'est pas les intérêts de 2, même si le taux est à 1,20 et que vous repartez pour 2-3 ans, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres moyens de se financer. Maintenant, c'est quand même très intéressant de l'avoir, parce que ça vous évite quand même potentiellement tout un tas d'embêtements, c'est-à-dire entre deux transactions, on est obligé de passer par un prêt relais. Donc en fait, on abandonne tout ça, alors qu'il pourrait y avoir des solutions finalement assez simples, quitte à ce que peut-être on comble un nouveau prêt en complément de l'ancien avec les nouveaux taux. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire de dire, grosso modo, essayons de trouver un juste milieu entre le professionnel quand même, parce que le banquier est là pour gagner de l'argent,
oui,
et le particulier qui aujourd'hui hésite et ne fait plus à cause des taux trop hauts. L'important, c'est de refluidifier ce marché de l'immobilier.
Charlotte, c'est une bonne nouvelle ?
Moi, je trouve que la nouvelle, elle serait plutôt géniale, très clairement. Mais moi, pour une situation personnelle, je me dis, c'est. Après, je pense que ça concerne un micro-marché, oui, et ça résolve absolument pas le problème des primo-accédants, des gens qui ne sont pas endettés aujourd'hui et qui n'arrivent pas à avoir accès à l'endettement. Et c'est ça, je pense que le gros de la stagnation du marché immobilier vient plus de là que du transfert, enfin du changement de résidence ou de l'acquisition d'un nouveau bien. Je pense que ça ne résout absolument pas le problème de l'accès à la propriété et de l'accès au crédit pour les gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Mais effectivement, pour les gens qui seraient en volonté de changer de la résidence principale pour s'agrandir un petit peu, ça peut être une très bonne nouvelle. Point de vue investisseur, niveau de la banque, je pense qu'ils aiment beaucoup le prêt-relais et qu'ils aiment bien aussi se rémunérer. Donc, à voir. En tout cas, je conseille à tout le monde d'aller lire ces conditions générales. Merci Stéphane pour le conseil.
Stéphane l'a dit, hein, les banques freinent vraiment des deux pieds. Wow. On va rester dans le secteur immobilier. Les chiffres catastrophiques de l'immobilier neuf, comment les comprendre, Stéphane? Et surtout, est-ce qu'il y a un moyen d'en tirer profit?
Alors, on va pas encore faire une énième mauvaise nouvelle et venir à la Cassandre du marché immobilier. Moi, ça fait
c'est quand même une réalité.
Non, mais vous savez, Stéphane, moi, je viens de l'immobilier, donc c'est un sujet qui depuis plusieurs mois, on le voyait venir. C'est très inquiétant. Là, il y a plusieurs chiffres qui sont encore sortis sur le premier trimestre 2024 par rapport à 2023, qui étaient déjà catastrophiques sur les dépôts de permis de construire ou les mises en chantier, qui chutent encore entre 7 et 10% pour l'un et l'autre. Donc, ça veut dire que ça ne s'arrange pas. C'est de plus en plus catastrophique. Et puis, il y a des éléments qui sont très importants, mais il y en a un que j'ai surtout retenu. À l'époque, je pense que c'était l'été dernier, la Caisse des dépôts et consignations était venue nous dire « Vous inquiétez pas, je vais pouvoir acheter en bloc aux promoteurs des stocks de projets, ce qui permet de maintenir l'activité du promoteur et puis de résorber évidemment une partie du logement intermédiaire et social. » Bon, ben, malgré ça, on a encore quand même une chute de 21% des réservations des particuliers et grosso modo, il n'y a plus de ventes, moins 40% de ventes de projets, y compris avec ce que la CDC a injecté pour les promoteurs. Donc là, on est quand même au bord, non seulement d'une vraie crise immobilière qui n'est plus due qu'à une hausse des taux, puisqu'on a vu que les taux s'étaient en train de fléchir, mais une crise sociale fondamentale pour tout le microsystème autour. Et surtout, ce qu'on se dit, parce que quand il y a une crise financière, ça peut repartir assez vite. L'immobilier, d'expérience, il y a une énorme latence avant que tout ça ne redémarre. Donc même si, Madame Lagarde, nous annonce des bonnes nouvelles, même si il y a des nouvelles aides, une nouvelle loi de finances qui permettrait aux investisseurs de rebénéficier d'avantages fiscaux, le temps que ça se mette en place, projet, dépôt de permis de construire, construction, bénéfices pour les clients, on sait que 2025, et ce serait que finalement fin 2026. Donc on est vraiment sur un secteur d'activité qu'on a pris vraiment plein les dents, alors que finalement on sait que c'est la base quand même, quand l'immobilier va, tout va, mon cher Stéphane.
Charlotte, peut-être un commentaire ?
Sur l'immobilier neuf, pas tellement, mais effectivement, les chiffres sont pas bons, et on le sait, étant donné que l'actif est tangible et réel, c'est pas la même chose que sur les marchés financiers où on est sur des choses immatérielles et où tout va effectivement plus vite avec ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment.
Mais Stéphane a dit quelque chose de très intéressant. Cette crise, elle est plurifactorielle. C'est pas uniquement lié à la remontée des taux d'intérêt.
Non, mais je pense que l'immobilier a aussi bien performé. Enfin, je veux dire, les marchés ne font pas que monter, mais l'immobilier non plus. Et à un moment donné, on le voit sur l'immobilier d'entreprise, hein, depuis déjà plusieurs, un peu plus longtemps que sur l'immobilier résidentiel. On le voit maintenant sur le résidentiel et notamment sur le neuf. Après, un marché, quel qu'il soit, ne fait jamais que monter et connaît aussi des phases de baisse. Le tout est de savoir comment les amortir de la meilleure manière, parce que là, l'immobilier du neuf touche à des sujets sociétaux bien plus graves derrière.
Stéphane, juste une petite chose, dans les chiffres que j'avais regardés, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à cause finalement de cette vraiment implosion de l'offre, je vais le dire comme ça, sur le premier trimestre, pas 2024, par rapport à 2023, en moyenne nationale, le prix de l'immobilier neuf a augmenté de plus de 1%. Donc la mécanique de se dire on monte les taux, ça va freiner le marché immobilier comme on le ferait avec n'importe quel, et ça fera baisser les prix. Et ben là on est dans un système où complètement qui est en train de se
là on parle
sur la tête.
D'une moyenne après,
des moyennes évidemment
sur certaines zones on a des baisses de prix
évidemment,
qui sont assez marquées.
Et puis il y a les matières premières, il y a beaucoup de choses qui expliquent tout ça, mais c'est quand même assez surprenant.
On va revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec Charlotte, c'est la gestion sous mandat. Est-ce que réellement ça permet aux investisseurs ça leur garantit un meilleur rendement? Les Échos, Charlotte nous le disait, a publié en début de semaine un article un petit peu provoque en disant que c'était le grand bluff. Stéphane, votre sentiment, la gestion sous mandat?
Alors, je suis partagé sur ce sujet. On a déjà eu pas mal de débats avec Charlotte sur le sujet. Gestion active, gestion passive. Ensuite, gestion sous mandat, gestion pilotée, gestion libre accompagnée. Et là, je vais être très transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs. Chez Net Investissement, on fait de la gestion libre. Donc, le client fait ce qu'il veut avec son contrat, mais il est accompagné par son conseiller en gestion de patrimoine. Donc, ça reste de la gestion libre, mais conseillée.
Ouais.
La gestion sous mandat, c'est à partir du moment où vous déléguez concrètement, contractuellement et financièrement, parce que ça coûte finalement plus cher, la gestion de votre portefeuille. Moi, j'ai tendance à dire, très franchement, la gestion sous mandat, ça peut très bien se passer pour des gens qui n'ont aucune appétence pour la finance, comme la gestion passive avec des ETF, etc., etc. Et que bon an, mal an, si on ne regarde que le rendement moyen sur tant d'années par rapport à entre gestion sous mandat, gestion libre, etc., on va pas avoir des différences suffisamment énormes pour expliquer l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, des gens âgés, des gens à l'étranger, etc. Je pense que c'est dû et c'est fait pour certaines catégories de personnes qui ont envie d'être un peu tranquille aussi, parce qu'un bon investissement, c'est pas que la rentabilité, c'est aussi de dormir tranquille la nuit.
Charlotte?
Mais je pense que ce serait difficile de comparer de la gestion libre et de la gestion sous mandat, parce que étant par principe que la gestion est libre, il en existe 10 000, enfin, je pense qu'il y a un nombre infini de portefeuilles particuliers, donc la comparaison serait impossible. Je tiens quand même à alerter sur l'article qui a été écrit, qui fait des comparaisons moyennes, donc déjà sur un nombre assez important de mandats. Donc effectivement, il faut faire attention au prix du mandat, mais comme tout, enfin, comme tout investissement, le but, c'est la rentabilité. Le premier ennemi de la rentabilité, ce sont les frais. Nous, chez Shares, on propose de la gestion libre et maintenant de la gestion pilotée. Je pense que là où il faut faire, où c'est important, c'est à quel niveau d'accompagnement l'investisseur a besoin d'aller sur le marché. Et là où il faut mettre un petit peu entre guillemets ce qui a été écrit dans l'article, c'est que les comparatifs se font surtout, en fait on prouve que c'est pas très bon, enfin l'article prouve que c'est pas très bon sur de la gestion prudente, sur de la gestion équilibrée, c'est-à-dire sur des profils qui ont au moins 50% d'actifs fonds euros et obligataires, donc non garantis en capital, et que sur cette période de 2017 à 2023, on a rencontré ce qu'on rencontre une fois tous les 20-30 ans sur le marché, un krach obligataire. Et ça, c'est pas mentionné, et ce qui vient vraiment drastiquement baisser la performance et la rentabilité de ce type de portefeuille. Moi, je pense qu'il faut partir de ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'on préfère faire les choses seul? Ça, c'est vraiment des convictions personnelles, mais je pense que la gestion sous mandat est un outil d'aide à la décision qui est fondamental, étant donné l'ampleur que doit prendre l'investissement par capitalisation en France aujourd'hui auprès de tout un chacun. Et je pense également qu'elle peut éloigner les biais cognitifs, qui sont un deuxième facteur de sous-performance en termes de gestion.
Il nous reste peu de temps, on va parler du livret A, placement préféré des plus de 50 ans. Ça vous paraît cohérent, Charlotte ?
Non, enfin, rien ne me paraît très cohérent avec le livret A, on en a tellement parlé. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à 50 ans, normalement, il me reste à peu près 15 ans avant la retraite. Et quand je regarde les performances du S&P, là, on parle beaucoup du S&P sur les derniers jours, et quand je regarde les performances des indices, ne serait-ce qu'américains, sur les 5, 10, 15 dernières années, je me dis que c'est quand même dommage de s'en priver. En tout cas, je pense que les cinquantenaires d'aujourd'hui ont besoin de ces intérêts, de ces profits pour leur retraite future.
Non, ce qui était intéressant, c'est que cette étude est très française, c'est-à-dire que les 50 ans, on est jeune. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que je vais basculer bientôt. Non, je commence à me rapprocher, moi. Et j'ai trouvé que, finalement, que les cinquantenaires placent déjà le livret A comme placement préféré était inquiétant à une majorité assez importante devant l'assurance vie en euros, évidemment.
Mais ça révèle, quoi? On n'a pas une appétence pour le
livret A? Non, ça révèle que les Français n'ont pas encore bien saisi, parce que je sais que quand leur réponse part du principe qu'ils considèrent le livret A comme ils ont raison de le considérer, c'est plus on vieillit, plus on a besoin d'avoir de l'épargne de précaution pour se protéger.
Liquide,
et puis qui actuellement, pour le coup, n'est pas contre-productif en rémunération. Mais ça, on continue à le répéter, Warren Buffett, moi j'avais appris ça à l'école, c'est très simple, vous prenez une base 100, vous enlevez votre âge et vous savez ce que vous devez sécuriser. Donc si vous avez 70 ans, 70% de vos actifs financiers doivent être garantis. Vous avez 80 ans, c'est 80. Vous avez 20 ans, il n'y a que 20% qui doit être garanti, les 80% doivent être en prise de risque. C'est un truc vieux comme le monde, mais à ne pas confondre épargne de placement avec l'épargne de précaution qui, c'est vrai, plus on vieillit, plus peut être nécessaire pour les aléas de la vie au quotidien.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce talk. Charlotte Tamer, experte en finances personnelles, directrice du business développement chez Shares, et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement. À suivre, juste après la pause, Nicolas Dose et sa dose d'économie. On parlera ensuite du marché obligataire avec Ronan Blanc. Et puis, notre coach du jour viendra nous parler du financement des deep tech. Emmanuel Macron veut faire de la France l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on a suffisamment de ressources en matière de financement? On en parlera tout à l'heure à 10h45. Restez avec nous.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Qui paye l'impôt sur le revenu? C'est un sujet de saison. La Direction générale des finances publiques a publié une réponse actualisée avec, j'imagine, un pourcentage.
Oui, il y a tous les chiffres actualisés. Alors, ça porte sur les impôts déclarés en 2023, donc l'année 2022. Première remarque, moins de la moitié des ménages français payent l'impôt sur le revenu, on le sait, mais là, on a les chiffres actualisés. 18,2 millions de foyers payent l'impôt sur le revenu sur pratiquement 41 millions de foyers en France. Le montant moyen payé par foyer imposable à l'impôt sur le revenu est de 4 663 euros, le montant moyen. Deuxième remarque, il y a de moins en moins de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. En 2013, on avait 52% des foyers qui payaient, donc plus de la moitié. Maintenant, c'est 45%. Alors, c'est assez logique. En 2014, François Hollande va supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui était à 5,5%. Puis en 2020, la nouvelle première tranche va être abaissée par Emmanuel Macron. Elle était à 14%. Elle passe à 11%. Voilà deux premiers éléments de réponse sur qui paye l'impôt sur le revenu.
Et donc, Nicolas, l'impôt sur le revenu en France reste payé par une minorité de foyers. Ça, ça a des implications.
Clairement, et surtout, c'est une toute petite minorité qui, à elle seule, verse les trois quarts de la recette. Et ça, c'est une vraie particularité. C'est-à-dire que là, très précisément, la DGFiP nous dit au-delà de 2740 euros par mois de revenus mensuels de référence, ça correspond à un célibataire qui n'a pas d'enfant, au-dessus de 2740 euros par mois de revenus fiscaux de référence, eh bien, les gens qui sont au-dessus de ce salaire-là versent 76% de la recette intégrale de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que c'est les 10% en fait, des Français les plus riches qui versent 62 milliards d'euros de recettes d'hier sur un total de 82 milliards d'euros de recettes d'hier. Et ces gens-là, au-dessus de 2740 euros, le montant moyen d'impôt qu'ils payent, c'est pas 4663, c'est 15 310 euros en moyenne d'impôts. Et quand on prend le 1% tout en haut, voilà, vraiment les gens les plus riches du pays, la facture moyenne d'impôts que ce 1% verse, c'est 68 000 euros. C'est pas mal de remettre ces chiffres un peu au milieu des réflexions. Autre observation de la DGFiP, les Français les plus riches, qui sont donc taxés à l'IR, sont ceux qui ont le moins profité des hausses de rémunération en 2022. Ce sont principalement les bas salaires et les basses pensions de retraite qui ont été les plus revalorisées. Après, l'IR participe bien sûr à la redistribution française, où les riches payent pour les moins riches. Je rappelle qu'avant impôts et prestations sociales, donc après les salaires uniquement, prenez les 10% tout en haut, les 10% tout en bas, l'écart est de 1 à 13. Quand on a fait la redistribution après impôts et les prestations sociales, de 1 à 13, on tombe de 1 à 7. Et une fois qu'on a ajouté l'apport des services publics pour les catégories les moins bien rémunérées, où il y a énormément d'éléments gratuits, je passe à des questions d'éducation, de santé, de logement, l'écart tombe entre 1 et 3. Donc on est parti à 13 tout en haut pour arriver à un écart entre 1 et 3. Ce qui montre bien qu'on a un système de redistribution qui fonctionne. Et on a plus de la moitié du pays, plus de la moitié des Français qui sont ce qu'on appelle des bénéficiaires nets. Cela veut dire que tous les ans, ils reçoivent plus de la collectivité que ce qu'ils vont payer sous forme de taxes ou sous forme de contributions. Parce qu'évidemment, on est bien d'accord, tous les Français payent de l'impôt. Tous ne payent pas de l'impôt sur le revenu, mais tous les Français payent de l'impôt, ne serait-ce que la TVA, et puis tout salarié verse des cotisations. Et d'ailleurs, les cotisations pèsent beaucoup, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu.
C'est intéressant ce que vous dites sur la redistribution, parce que la France est aussi l'un des pays où on a le sentiment d'injustice, oui. Notamment fiscale, qui est particulièrement aigu. Quelle conclusion peut tirer de tous ces chiffres?
Je dirais la conclusion que rien ne change, le fait que moins de la moitié des foyers payent, on le savait, mais on voit que rien ne change, mais les écarts se creusent entre ceux qui ne payent pas et ceux qui payent. Je considère, moi, que l'impôt sur le revenu coche toutes les cases du mauvais impôt. Parce qu'en réalité, il rapporte très peu. Il rapporte environ 3,5% du PIB dans des pays comparables aux nôtres, c'est plutôt entre 9 et 10. Donc il rapporte peu. Il est payé par de moins en moins de gens, qui, eux, payent beaucoup individuellement et vivent très mal cet impôt. Et j'en tire aussi la conclusion que c'est une petite leçon à ceux qui désignent constamment un pays d'inégalité, ultra-libéral, avec un impôt qui ne serait pas progressif. Je crois que là, on a quand même des éléments qui font que ces gens-là, à mon avis, sont mal renseignés. Ensuite, derrière, il y a un autre sujet, et je finis par là, ce sera l'objet d'un autre rendez-vous. Il faudrait aussi qu'on parle de la CSG, parce que la CSG, c'est un impôt sur le revenu, qui, celui-là, est payé par tout le monde. Et ça mériterait peut-être de rouvrir le débat qui a eu lieu à un moment, de savoir s'il ne faudrait pas fusionner l'impôt sur le revenu que j'ai décrit avec la CSG, qui est une sorte d'impôt sur le revenu de la même manière, totalement universelle, payé absolument par l'ensemble des revenus.
Merci beaucoup, Nicolas Dose, la dose d'économie tous les matins, et bien sûr, les experts de 9h à 10h tous les jours sur BFM Business. 10h37, on va parler du marché obligataire.
Tout pour investir. En portefeuille.
Avec Renan Blanc, gérant obligataire à la Financière Arbevel. Bonjour Renan.
Bonjour.
On s'est beaucoup, beaucoup focalisé sur les banques centrales, notamment sur la Réserve fédérale américaine, avec des anticipations de baisse de taux qui ont vraiment été revues à la baisse en l'espace de quelques mois. Certains analystes ont même envisagé qu'il n'y ait pas de baisse de taux aux États-Unis jusqu'aux élections du mois de novembre. La réalité, c'est que la détente des conditions de financement et les résultats d'entreprise ont été pour les marchés des moteurs beaucoup plus puissants que les taux très élevés des banques centrales, en fait.
C'est l'enseignement de la phase qu'on a vécue. En début d'année, je me souviens, il y avait entre 6 et 7 baisses de taux qui étaient anticipées. Certains prédisent aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, avec les vieux réflexes du passé de dire de toute façon la BCE n'agira jamais avant la Fed, c'est jamais arrivé, etc. Bon, on sait que ces dernières années, les choses qui devaient jamais arriver se sont souvent produites. Le vrai enseignement, c'est que le logiciel de pensée des banques centrales est modifié a priori quand même dans la durée, c'est-à-dire que les baisses préventives de taux qu'on a pu connaître dans le passé appartiennent au passé, ça c'est clair, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est aussi le signe finalement que les choses vont pas si mal, hein, ce fameux ralentissement en douceur que certains avaient encore du mal à accepter, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Les entreprises n'ont pas attendu qu'on leur dise d'agir pour prendre des mesures, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Hein. À la fois, les ménages ont beaucoup mis de côté, mais les entreprises sont aussi assises sur des matelas de sécurité assez, assez épais. Et maintenant qu'on gagne un petit peu en visibilité sur le cycle économique, et même monétaire, puisque baisse de taux, il y aura quand même, hein, ça sera un accompagnement plutôt qu'un grand cycle de baisse, bah, ces liquidités vont être progressivement redéployées. Donc c'est ce qui explique finalement que même si certains ont pu être déçus du retard ou peut-être du rythme inférieur aux attentes sur cet accompagnement monétaire, bah, finalement les actifs risqués se portent plutôt pas mal depuis le début de l'année.
La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera le 6 juin. A priori, elle va annoncer une première baisse de taux. Quelle est l'urgence de baisser les taux? En Europe, 70% des entreprises continuent de se financer principalement avec du crédit bancaire. Est-ce que ça ne montre pas l'urgence justement d'alléger un petit peu la pression et de baisser les taux?
C'est le facteur qui est vraiment déterminant entre les deux côtés de l'Atlantique. Hein. Au-delà du fait que la croissance américaine est plus élevée qu'en Europe, hein, on le sait tous, hein, ce gap est en train progressivement de se creuser. On sait que depuis le mouvement depuis la crise financière de 2008, il y a un mouvement de désintermédiation qui s'est enclenché. Donc, sous-entendu, les entreprises européennes essayent de rattraper leurs homologues américaines dans leur diversification à l'accès au financement. Elles étaient trop banques, pas assez marchés.
Donc ce ratio, quand même. Oui, mais
le truc, c'est que c'est un process qui est long. Donc ce 70%, ça veut dire que cette fameuse transmission monétaire que la BCE nous rappelle à l'ordre, elle est d'autant plus d'actualité chez nous. Donc ça veut dire que il y a une mécanique qui est un petit peu plus forte sur le fait que cette sensibilité au crédit bancaire face au taux de la BCE. C'est moins vrai aux États-Unis. Mmh. Clairement, les portes du marché du crédit aux États-Unis sont très grandes ouvertes. C'est des ratios quasiment inverses. C'est-à-dire que c'est 30, un peu plus du tiers aux États-Unis où les entreprises dépendent principalement des banques pour se financer. Donc ce ratio-là, bah, il se voit, cette transmission monétaire, elle doit se faire mieux. Et c'est pour ça qu'on croit depuis un petit moment que la BCE est en capacité finalement de procéder à une première baisse avant la réserve fédérale. Donc c'est pas des divergences hein, de cycle monétaire, c'est plutôt un décalage dans le temps. C'est-à-dire que la Fed, elle va le faire quoi? Peut-être en juillet, allez, maximum au mois de septembre. Il y a des éléments factuels un peu plus rassurants, notamment sur l'inflation américaine. Mais il n'y a pas de précipitation à voir. Et je finirai là-dessus sur les banques centrales. C'est pas parce qu'elles commencent qu'elles vont aller en accélérant. Elles gardent vraiment toutes les cartes en main et elles ne vont pas trop dévoiler leur jeu. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y aura 3 baisses de taux en Europe cette année. Mais on ne va pas avoir un message très clair. Il ne faut pas s'attendre à un message très clair de la part de la BCE au mois de juin.
Et surtout, je crois que tout le monde est d'accord, on ne reviendra pas à la situation antérieure. Hein. La situation de taux négatif, c'était une anomalie.
Alors, il y a une anomalie
bénie pour les emprunteurs, mais...
A posteriori, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Hein. Quand on a le choix entre la peste et le choléra, bah, on choisit la moins mauvaise des solutions. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir oublier. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que quand on a des opérations de fusion-acquisition, des choix d'investissement qui sont faits par les entreprises, ils sont beaucoup plus mûris qu'avant. Là, on raisonne vraiment sur les retours sur investissement parce que bah, le cash coûte de l'argent. C'est quelque chose qui n'existait pas pendant le Covid avec ces fameux taux négatifs. Donc, voilà, on atterrit sur une situation un peu plus normalisée, même si j'aime pas trop cette expression. Et finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on a des choix d'investissement qui sont plus raisonnés aussi en face.
Depuis l'été dernier, près du tiers des échéances obligataires 2024-2026 ont été refinancées en Europe et pratiquement 40% aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entreprises prennent les devants, elles veulent rester prudentes. Vous disiez, il y a quand même pas mal de prudence dans la gestion de ces entreprises.
Oui, alors, on nous parle souvent dans l'obligataire du fameux mur de dette. C'est-à-dire, ouais. si on se rappelle un an auparavant, beaucoup nous disaient, sur le marché à haut rendement européen, il y a 200 milliards de dettes à refinancer d'ici 2026. Et comment on va faire? En fait, on va faire. C'est-à-dire qu'on va avancer, pas par pas. Les entreprises prennent les devants, montrent au marché qu'elles sont capables de générer des flux de trésorerie positifs, hein, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. La dynamique des résultats a plutôt été positif, enfin, oui, clairement constructif ces derniers trimestres. Hein. Et donc, du coup, là, à date, on a déjà enjambé un tiers de ce mur de dette. Depuis le début de l'année, on a quasiment 50 milliards d'euros d'obligations nouvelles qui ont été émises et qui viennent refinancer la dette existante. Donc, il n'y a pas entre guillemets, on ne rajoute pas de la dette à la dette. Hein, c'est simplement, on va proposer de racheter par anticipation les dettes courtes pour émettre du plus long. C'est ce qu'on appelle de la transformation. Donc, d'ici à ce rythme-là, d'ici le premier semestre de l'année prochaine, ce mur de dette sera quasiment enjambé en totalité. Donc voilà, faut pas en avoir peur. Hein, l'obligataire, il y a toujours, par définition, un mur de dette. Mais encore une fois, faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des entreprises et le fait que dans un scénario de certes croissance molle, mais croissance positive quand même, tout n'est pas à jeter. Alors, il y aura des histoires de restructuration, il y en a eu, hein, on est en plein dans le scénario Atos, on a eu Casino précédemment, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment des stigmates post-Covid d'entreprises qui avaient un business model qui n'était viable uniquement par le fait que l'argent ne coûtait rien. Maintenant que l'argent coûte quelque chose, ces business models ne sont plus viables.
Et la génération de cash devient une priorité. Hein.
Ah, ça devient une priorité, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que oui, on peut prêter, il n'y a pas de difficulté en soi, mais il faut aussi prouver à un moment donné que cette dette, on va être en capacité de la rembourser un jour. Hein, c'est assez facile à comprendre. Et donc, il y a une minorité du marché de la dette en Europe qui sera amenée à sans doute restructurer d'une manière ou d'une autre sa dette. Alors, ça a différentes formes, hein, soit c'est le cataclysme total à la Casino et là votre dette, bah, ça vaut plus rien. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des rallongements ou des réaménagements, c'est-à-dire qu'on va vous payer peut-être un coupon un petit peu plus élevé dans le futur. Voilà, c'est un peu la carotte et le bâton à la fin des fins, mais c'est quelque chose auquel il va falloir se réhabituer pour une minorité. Et donc voilà, notre boulot en tant que analyste crédit est bien évidemment d'éviter ces histoires crédit et d'aiguiller les investissements vers de la dette de meilleure qualité, mais qui aujourd'hui paye un rendement significatif.
Nouvelles conditions de financement, plus dures, plus restrictives, priorité à la génération de cash. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur, ce nouvel environnement, alors, en termes d'allocation d'actifs?
Alors, déjà, l'investisseur redécouvre l'obligataire depuis 2 ans, hein, c'est une réalité. Donc, l'obligataire retrouve sa place dans les allocations stratégiques, hein, une place qu'il n'aurait peut-être pas dû perdre, mais en tout cas, sous le diktat des banques centrales, ça a été le résultat qu'on a connu. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est bon pour le crédit, est bon pour les marchés actions aussi. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale entre les deux. On a des actifs à rendement qui retrouvent finalement leur place dans les portefeuilles et sur les marchés actions. Maintenant qu'on retrouve un petit peu de visibilité sur le cycle économique et monétaire, bah, on le voit depuis le début de l'année, on n'a pas eu ou très peu eu de baisse de taux, voire les taux souverains ont plutôt eu tendance à remonter, ce qui n'a pas empêché de voir des perfs plutôt positives sur les marchés actions. Et on continue à penser qu'il y a encore de la performance à aller chercher sur ce segment. Encore une fois, on ne met pas en opposition les classes d'actifs. Elles peuvent être complémentaires. Et d'ailleurs, on voit qu'en termes de valorisation, on a un petit peu de frétillement au niveau des opérations de fusion-acquisition qui sont encore une fois plus raisonnés qu'avant et qui sont sans doute le stigmate d'un marché un peu plus sain.
Vous dites que le marché obligataire est de retour pour les investisseurs. Quel pourcentage dans un portefeuille type, la poche obligataire?
Alors, nous, on est très peu sur les emprunts d'État parce qu'on pense que, voilà, des notions de déficit, etc. Pour une allocation, entre guillemets, globalement prudente, on peut aller facilement tiers, voire 50%, selon les supports crédits. Alors, ça englobe toute la poche obligataire. Hein. On a les placements les plus sécurisés. Nous, on propose un fonds aussi crédit court qui va bénéficier finalement de baisses de taux à venir. Et on peut aussi toujours militer pour les fameux fonds à échéance, hein, qui ont quand même animé le marché ces 2 dernières années et qui permet de figer un rendement sur une maturité un petit peu plus longue. Et ça laisse les mains libres à, entre guillemets, faire son marché sur des poches un peu plus risquées, notamment sur la partie action.
Merci beaucoup, Renan Blanc, gérant obligataire à la Financière Herbevel. Merci pour toutes ces explications. Dans un instant, on va parler de la tech, évidemment, en marge du salon VivaTech, le financement de ces entreprises de la tech et des deep tech en particulier. Vous allez le voir, le financement, les investissements sont en baisse. On va voir pourquoi avec notre invité.
Tout pour investir, le coach.
Les deep tech sont à l'honneur cette année au salon VivaTech avec notamment un grand rendez-vous organisé aujourd'hui par BPI France. On va parler du financement des deep tech avec Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane.
Alors, petite piqûre de rappel pour essayer de ne perdre personne en cours de route. Les deep tech, ce sont les entreprises ou les services qui développent des produits fortement technologique. C'est là, évidemment, où on retrouve tous les acteurs de l'intelligence artificielle.
Ouais, c'est des innovations de rupture, en général, hein, qui s'appuient sur une technologie qui a été développée le plus souvent en laboratoire, en centre de recherche, au CNRS, par exemple, dans des pôles universitaires, et qui ont été amenées avec le brevet pour en faire une application business, en effet.
Alors, on en parle de plus en plus, mais est-ce que c'est vrai aussi en termes d'investissement ? Là, on observe une baisse en volume et en valeur depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier. Pour quelles raisons ?
Alors, l'année dernière, hein, ce qu'on avait déjà vu, effectivement, c'était encore une contraction des montants levés, que ce soit par les fonds ou par les entreprises, les start-up, qui est liée, bien sûr, à la conjoncture, à la hausse des taux d'intérêt.
Conditions de financement en général.
Conditions de financement en général, mais également cette hausse des taux d'intérêt qui a un impact direct sur pas mal de sorties, notamment les sorties par LBO, les introductions en bourse qui étaient quasiment inexistantes. Donc, cette contraction-là, on l'observe en 2023, on l'observe à nouveau en 2024. Elle était très forte en 2023 parce qu'on a vu quand même une réduction de quasiment 50% du nombre d'opérations. Et voilà. Et en termes de volume, la baisse, elle est autour de 25% sur le premier trimestre. Du fait de quelques levées, méga levées qui quand même persistent. Et elles persistent notamment dans les deep tech avec effectivement l'intelligence artificielle qui en fait partie et puis les green tech.
Mais est-ce que les baisses de taux des banques centrales qu'on attend a priori dans les prochains mois, le 6 juin pour la première du côté de la BCE, est-ce que ça va améliorer les conditions de financement à votre avis ?
Mais ouais, et ça a déjà commencé. En fait, on commence à voir enfin la reprise. J'étais venu la semaine dernière pour faire le bilan d'avril qui était encore en demi-teinte, qui confirmait cette tendance baissière au premier trimestre, et là ça change, mais hein, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Vivatech, la tech française se reprennent. L'année dernière, Vivatech c'était quand même assez morose, c'était teinté d'entreprises en phase de liquidation. On avait eu Luco, on a eu quand même Mastéos l'année dernière, des licornes, quasi licornes qui sont allées au tapis, hein. Mais là ça reprend. On a eu cette semaine la levée de fonds dans l'intelligence artificielle de H, une levée quand même d'une entreprise qui va se lancer mais avec 220 millions d'euros. On a eu Mistral pour 600 millions d'euros.
Voilà. La star française de l'intelligence artificielle.
Ah, la star, d'ailleurs, la France, hein, qui vient vraiment concurrencer
les... On va parler des ambitions de la France. D'abord, peut-être un mot sur les levées de fonds early stage. On constate une baisse des montants, mais aussi on voit que ce sont les financements obtenus par une start-up au début, hein, pour soutenir sa croissance initiale. On constate que l'âge des start-up augmente, c'est-à-dire qu'elles empruntent moins, enfin elles lèvent moins d'argent et un peu plus tard.
Je vais y arriver. Les fonds, hein, depuis maintenant 18-24 mois, ont enclenché un peu un phénomène de flight to quality, c'est-à-dire que la fuite vers la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont chercher des entreprises qui sont plus robustes et ils vont de plus en plus vers des tours un peu plus avancés, donc des entreprises qui sont plutôt en phase de série A voire série B. Ceux qui étaient en série A, ils sont passés sur les séries B, ceux qui étaient en amorçage sont passés sur les séries A, et à l'exception près effectivement de ces méga levées qui peuvent être très très early stage, mais qui sont sur des montants très importants. De manière générale, les petites levées en nombre ont baissé, et puis en valeur également naturellement. Les investisseurs attendent de voir vraiment une traction qui se confirme, une rentabilité, une courbe de rentabilité aussi qui est bonne et qui amène l'entreprise vers la rentabilité assez rapidement, ou en tout cas qui permet à l'entreprise de tenir dans le temps, parce que ce qu'on voit également c'est un allongement des délais levée de fonds, ce qui implique pour les entreprises d'être capables de faire tenir leur trésorerie sur plus de mois le temps que cette reprise se confirme.
Vous l'avez dit, Emmanuel Macron veut faire de la France un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. La France a de grandes ambitions. Est-ce qu'on est suffisamment armé en matière de financement ?
On est armé en matière de financement pour deux raisons. On a la BPI qui est quand même dans le classement, dans le top des financeurs mondiaux, hein, désormais. La BPI est sur quasiment tous les deals. D'ailleurs, cet après-midi, vous avez tout un événement Deep Tech.
Organisé par BPI France.
Voilà, organisé par BPI France sur Vivatech, hein, l'Europe Deep Tech Meetup, où on parlera justement du financement de ces startups Deep Tech, pour certaines sont des très grosses startups, hein, notamment celles de l'intelligence artificielle, les entreprises dans le quantique. Donc d'un point de vue financement, côté français c'est intéressant, et puis il y a également les investisseurs étrangers qui reviennent, ça c'est aussi assez intéressant de le voir sur les deals récents. Vous avez les investisseurs américains qui étaient partis et qui reviennent, Andreessen Horowitz, Sequoia et les autres.
Les montants déployés aux États-Unis sont absolument colossaux. Est-ce qu'on a la capacité financière en France, en Europe, de lever des montants similaires ?
On l'a de plus en plus, même si on est, c'est les investisseurs étrangers et l'attraction d'investissements étrangers est importante. Et je pense que ça, c'est le travail qu'avait fait Bruno Le Maire lorsqu'il s'était déplacé à New York. Il a fait sa tournée de Wall Street justement pour promouvoir la France. C'est le travail que fait Emmanuel Macron également. C'est tout l'intérêt effectivement d'un salon international comme Vivatech, où on verra Elon Musk normalement, hein, je pense demain, hein, les sœurs Williams également. Qui viennent. Vous avez quand même un beau coup de projecteur sur ce que fait la France, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec des investisseurs étrangers et des investisseurs français, hein, Xavier Niel et d'autres, qui investissent massivement dans ce domaine parce que en France, on a aussi la chance d'avoir les compétences, le pool de scientifiques qu'il faut pour avancer là-dessus.
Il y a une vraie attractivité des startups françaises de la tech au niveau européen, au niveau mondial.
De plus en plus. Ouais. De plus en plus, parce que c'est vrai que toute cette campagne sur les licornes, tous ces investissements qui ont été faits dans la tech française, et puis dans la deep tech aussi, parce qu'il y a eu une très grosse focalisation et des gros investissements, subventions, donc à la fois donc privés et publics, sur les deep tech ces trois dernières années, on fait émerger des leaders, futurs leaders, sur ces catégories qui sont très en vogue et stratégiques.
Vous êtes cofondateur de Tudigo. Quels sont les critères, les principaux critères que vous regardez avant d'investir dans des startups, notamment dans la tech?
On en regarde beaucoup, mais effectivement, si on prend la tech, et puis on se fait une focalisation sur même la deep tech, bien sûr, ça va être la proposition de valeur et la capacité de l'entreprise à la délivrer. Comment on l'évalue, nous? C'est ce qu'on appelle le product market fit, la rencontre entre la startup et puis son marché, et qui se démontre aussi via une traction commerciale, la capacité de signer des clients, que ce soit des pilotes ou des vrais clients, et de montrer une croissance. C'est le premier. En deep tech, ça va être le niveau d'avancement technologique qu'on qualifie avec le TRL, Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique. Vous avez une échelle de 1 à 9, on va chercher à partir de 6-7, donc quand l'entreprise a déjà des premiers pilotes avec des industriels, et voilà, que la technologie a déjà été testée en environnement réel et pas uniquement en labo.
Ouais.
Et puis après, très très important, surtout dans ce contexte, nous on regarde beaucoup effectivement la capacité de l'entreprise à dégager de la rentabilité et à minima en tout cas à avoir une trésorerie suffisante pour tenir sur au moins 18-24 mois. Parce que effectivement les levées, même pour des entreprises qui étaient en très forte croissance et qui comptaient lever tous les ans, ce qu'on voit c'est qu'il y a un vrai allongement des délais sur les levées de fonds. Donc l'entreprise doit montrer une capacité à être résiliente et puis à être pérenne.
Mais est-ce qu'au global, vous avez l'impression que les investisseurs sont beaucoup plus regardants qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années ?
Ouais, que ce soit au niveau des particuliers et des professionnels.
Ouais.
Les professionnels parce que ils ont moins de fonds en attendant effectivement de déboucler leurs fonds.
Donc l'allocation est plus sélective.
L'allocation est plus sélective et puis ils ont très très peur effectivement du risque, le risque de casse, le risque de liquidité, et donc ils se déplacent vers des plus gros deals. Les investisseurs particuliers sont de plus en plus éduqués et puis il y a de plus en plus de choix. Le niveau, nous ce qu'on constate chez Tudigo sur les 600 à 800 dossiers qu'on reçoit tous les mois, c'est que quand même en fait on a de plus en plus de beaux dossiers par rapport il y a 3 ans, le niveau général moyen a très 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 fortement augmenté. Et puis les particuliers maintenant aussi voient qu'ils arrivent à co-investir, et sur Tudigo on le fait très très souvent maintenant, avec les fonds d'investissement, avec des family office de premier rang, sur des tours de table ambitieux, et donc plus un choix qui est plus important, donc une sélectivité aussi qui augmente.
Merci beaucoup. Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo. Vous serez cet après-midi au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris. BFM Business et partenaire. Vous allez participer à cet événement organisé par BPI France, je crois.
Tout à fait, à 14h30.
Voilà. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Léo Dumas. On retournera sur les marchés financiers avec Antoine Larry-Gaudry. Et puis, dans la place de l'Imo, un match aujourd'hui. Ce n'est pas une affiche de foot. Hein. Lille contre Marseille. On vous expliquera les avantages, les inconvénients de chacune de ces deux villes et laquelle est plus intéressante pour investir dans l'immobilier. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.